Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, c'est la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient, c'est la libre antenne. Vous commentez tous les sujets de l'actualité, tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine. Et ce matin, vous êtes encore nombreux à souhaiter réagir à l'intervention militaire franco-britannique en Libye. C'était il y a 5 ans, mais cette semaine, un rapport parlementaire britannique affirme que cette opération a été un fiasco, un désastre. Les députés affirment que le Royaume-Uni s'est appuyé sur des renseignements imprécis pour lancer les frappes aériennes, qu'il n'y avait pas de menace réelle sur la population civile, qu'il aurait fallu privilégier l'option politique plutôt que de changer de régime par des moyens militaires. Et ce rapport pointe du doigt également l'absence de vision pour l'après-Kadhafi. Alors vous avez été des centaines hier à souhaiter prendre la parole. On va prolonger le débat un tout petit peu ce matin avec Abdoul Karim qui nous appelle de Niamey. Bonjour Abdoul Karim.
Bonjour Juan Gomez.
Bienvenue sur notre antenne. Vous faites partie de ces auditeurs qui pensent que l'intervention il y a 5 ans était inopportune.
Oui, effectivement, c'était une intervention inopportune, inconséquente. Cette guerre n'avait pas vraiment sa raison véritablement d'être. Et dans la mesure où vous avez vu aujourd'hui, l'État libyen n'existe plus. Il n'existe que de nom. Il y a une véritable anarchie qui s'est installée. Après cette intervention, depuis 2011, l'intervention avait juste pour objectif de faire partir le guide libyen. Et je vous assure qu'aujourd'hui, les conséquences sont plus dramatiques, voyez-vous. Et toute la zone sahélo-saharienne est en insécurité à cause justement de cette intervention. C'est pourquoi je disais tantôt qu'elle est inopportune. Elle n'a vraiment pas sa raison d'être.
Et en même temps, Abdoul Karim, à l'époque, rappelez-vous, les Français et les Britanniques invoquaient des raisons humanitaires pour justifier cette opération militaire. On disait que Kadhafi voulait massacrer son peuple, qu'il fallait donc éviter ce massacre. Kadhafi, rappelez-vous, il avait promis de nettoyer Benghazi, cette ville rebelle, maison par maison, rue par rue.
Et justement, c'était là des raisons fallacieuses données, des raisons pour justifier cette guerre. Mais en réalité, quand même le guide libyen disait qu'il allait, nettoyer Benghazi, il voulait tout simplement dire qu'il allait faire partir tous les parasites, c'est-à-dire ceux qui sont à la base du soulèvement. Et voyez-vous, aujourd'hui, cette guerre, qui a été imposé par les Occidentaux de gré et de force, a des conséquences néfastes pour l'Afrique tout entière.
Enfin, imposé, c'est votre perception de l'actualité. Je rappelle quand même qu'à l'époque, le Conseil de sécurité de l'ONU s'était réuni, qu'une résolution avait été adoptée, donc il y avait un feu vert international pour mener ces frappes aériennes. Eva, vous nous appelez de Paris. Bonjour Eva.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous dites que cette intervention aurait pu être une bonne chose.
Oui, en fait, moi, je pense que quand on intervient, il faut intervenir pour des bonnes raisons.
Excusez-moi Eva, vous êtes dans un lieu où le réseau téléphone passe mal, donc on vous entend mal. Votre voix se robotise et malheureusement, nous n'avons pas le décodeur. Donc essayez de vous déplacer, on va vous retrouver dans un instant. Rolly, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez, vous, de Montpellier?
Oui.
Et on vous écoute donc sur les conclusions de ce rapport des députés britanniques.
Alors, je trouve que c'est une bonne conclusion, mais je pense aussi que c'est une conclusion hypocrite. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas cette conclusion concrètement, qu'est-ce que ça va apporter au peuple libyen et à la solution. Pour moi, nous devons d'abord questionner le passé et trouver des solutions pour le futur. Questionner le passé comment ? En sanctionnant toutes ces personnes qui ont attaqué ce pays et qui ont détruit ce pays qui est la Libye. Parce que l'intervention britannique et française en Libye n'était pas pour un objectif humanitaire. On voit que c'était pour un objectif purement économique et pour éliminer Monsieur Kadhafi. Aujourd'hui,
juste une parenthèse importante, Rolly, je n'ai pas lu l'intégralité du rapport, mais il y a une phrase qui est quand même très intéressante. Ce rapport précise que l'intervention militaire qui était destinée à protéger la population de Benghazi, cette intervention militaire était terminée en 24 heures. C'est-à-dire que la suite de l'opération militaire avait d'autres objectifs.
Exact. Exact, parce que l'intervention, s'il fallait intervenir à Benghazi pour protéger la population, cette intervention ne devait pas être prolongée pour bombarder même le convoi de Kadhafi à Sirte, qui a conduit à son élimination, comme on a tous vu à la télévision. Aujourd'hui, la destruction de la structure étatique en Libye a des conséquences néfastes, non seulement pour ce pays, mais aussi pour toute la sous-région. Et qui en profite aujourd'hui ? C'est ACMI, c'est Boko Haram, et c'est certaines sociétés pétrolières.
Oui, c'est surtout l'organisation de l'État islamique. Hein. Boko Haram n'est pas implanté dans ce pays, mais enfin, peu importe, les djihadistes, on a bien vu, ont pris le dessus à un moment donné, le dessus sur la rébellion. Eva nous rejoint, on me dit que le réseau téléphone est bon avec Eva. Ne raccrochez pas évidemment Rolly, on vous retrouve dans un instant. Eva, vous disiez que c'était une bonne chose que de vouloir détruire les chars de Kadhafi devant Benghazi.
Oui, enfin, ce que j'allais dire, en fait, c'était que quand on intervient dans des situations comme ça, il faut intervenir pour des bonnes raisons. C'est qu'à la base, si on était resté sur la protection des civils contre le régime en place, ça aurait été une bonne chose. Sauf qu'après, on est parti, ça a dévié vers autre chose qui n'avait complètement rien à voir. C'était dans l'élimination de Kadhafi, qui pour moi n'était pas la solution. Je pense qu'on aurait dû plus partir vers une solution politique, c'est-à-dire essayer de dissuader Kadhafi, certes, en intervenant, mais surtout de le conduire vers la table des négociations afin de trouver une solution politique. Parce que ce qu'on oublie, c'est que Kadhafi, c'était un peu penseur de ce système. Et à partir du moment où on élimine le penseur, il faut penser à l'après. Et je pense qu'on a éliminé le penseur sans penser à l'après. On a laissé la Libye livrée à elle-même sans tirer les conséquences de l'intervention. Donc je pense que...
Il aurait donc fallu obliger Kadhafi à négocier. Rolly, à Montpellier, on se souvient que les pays africains militaient plutôt pour l'option politique plutôt que l'option militaire. Finalement, ces pays africains n'ont pas été entendus.
Mais je pense qu'ils n'ont pas été entendus, en même temps ils n'ont pas été efficaces. Parce que, comme en République démocratique du Congo, si on a envoyé une armée d'interposition, on pouvait régler ce conflit en s'interposant entre les armées de Benghazi et l'armée de Kadhafi, et on allait pousser Kadhafi à s'asseoir sur une table de négociation pour pouvoir ouvrir l'espace politique libyen à une opposition, et on allait avoir des fruits qui allaient être différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est un pays, une population, des gens qui meurent. Au même moment, les gens, les instigateurs de cette intervention, ils vivent dans des palaces, ils sont tranquilles. Ils ne sont pas poursuivis par la justice.
Ouais, beaucoup d'auditeurs réclamaient hier sur la page Facebook de l'émission, effectivement, des sanctions, des poursuites judiciaires à l'encontre des dirigeants de l'époque, en l'occurrence le Premier ministre britannique David Cameron et le président français Nicolas Sarkozy. Merci à tous les trois, Rolly à Montpellier, Eva à Paris et Abdoulkarim à Niamey. Merci d'avoir contribué à la réflexion ce matin. On aura certainement l'occasion de reparler de ce fameux rapport des députés britanniques. Blaise, bonjour.
Bonjour, monsieur Roy.
Vous êtes à Brazzaville et vous nous interpellez sur le scandale Nkandla, du nom de ce petit village du KwaZulu-Natal où se trouve la propriété privée du président sud-africain, Jacob Zuma, propriété qui, rappelons-le, a été rénovée avec de l'argent public, l'argent du contribuable. Il a construit une piscine, un amphithéâtre, un enclos pour bétail. Bref, l'affaire a fait scandale. La justice lui a demandé de rembourser 450 000 euros à l'État. Et on a appris cette semaine que le président sud-africain avait remboursé cette somme, et vous dites que pour que Zuma, finalement, montre l'exemple aux autres dirigeants africains.
Ok, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je suis d'avis avec l'attitude adoptée par le président Zuma, parce que cela obéit aux trois des six piliers de la bonne gouvernance, à savoir le devoir de rendre compte, la primauté du droit et la transparence de la gestion des affaires publiques. Un chef d'État qui utilise l'argent de l'État pour des affaires privées doit avoir l'obligation de rembourser. Et j'ai salué la décision du président Zuma qui a possédé effectivement Hormuzman, c'est un modèle pour l'Afrique, et il faut que nous continuions de se lancer parce que là, l'Afrique aborde un schéma de la bonne gouvernance.
Enfin, Blaise, vous dites que c'est un modèle pour l'Afrique. Alors certes, il utilise de l'argent public pour construire une piscine, donc il commet une erreur. Oui. Il rembourse, d'accord, mais il rembourse parce qu'il y a la grosse pression de la Cour constitutionnelle, de la justice qui l'oblige à rembourser, pression également des citoyens lambda qui en ont marre des différents scandales qui noircissent le mandat de Jacob Zuma. Et aujourd'hui, une partie de l'opposition lui demande de démissionner. Démissionner car il a violé la Constitution.
Justement, M. Rouen, c'est là le problème. Il faut appliquer le principe d'une faute avouée est à moitié pardonnée. Le président Zuma a commis une faute. Il a décidé de rembourser et il rembourse. À ce moment-là, l'opposition, telle qu'elle se comporte, elle va au-delà du juridisme. Ce n'est pas normal. Lorsque quelqu'un vient accepter de rembourser, acceptons-le et mettons fin au débat. Sauf si on a un projet derrière. Voilà, c'est là où je parle d'accord avec l'opposition sud-africaine. Dès l'instant que le président Zuma a accepté de rembourser, on doit mettre fin au débat.
Ouais.
Parce que ce qui compte, c'est la faute commise avouée, et l'argent remboursé, voilà tout, monsieur Rouen.
Enfin, il a reconnu ses fautes une fois que la Cour constitutionnelle a estimé qu'il avait violé la Constitution pour avoir d'abord pris de l'argent dans les caisses de l'État et ensuite pour avoir refusé de rembourser cette somme comme le lui demandait la médiatrice de la République. Et donc là, effectivement, lorsque la médiatrice de la République vous demande de rembourser et que vous ne le faites pas, c'est une atteinte à la Constitution. En tout cas, là aussi, le débat est loin d'être clos. L'opposition, et notamment le Parti radical, entend bien obtenir la démission de Jacob Zuma. Ce sera bien compliqué puisque l'ANC, évidemment, soutiendra le président jusqu'au bout, jusqu'à la fin de son mandat. Merci à vous, Blaise. Bonne journée à Brazzaville. On va s'intéresser au Burkina Faso. La procureure du Burkina Faso a organisé cette semaine une conférence de presse. On en a parlé sur notre antenne. Une conférence de presse sur l'enquête concernant l'insurrection populaire d'octobre 2014. Ces fameuses manifestations anti-Compaoré qui avait fait une trentaine de morts. Et la procureure a tapé du poing sur la table cette semaine en affirmant que pour l'instant, les tueries n'avaient donné lieu à aucune inculpation. Et elle dénonce en fait l'absence de coopération des autorités actuelles. Romain, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Ouagadougou et vous avez été, vous, surpris par les propos de la procureure de votre pays.
Surpris et étonné aussi parce que, à l'entendre, les autorités actuelles bloqueraient les enquêtes sur les crimes de l'insurrection, ce qui m'amène à m'interroger sur la question de savoir quel intérêt auraient les autorités actuelles à s'opposer à ce que la vérité se manifeste sur ces crimes-là qui, a priori, ne les concernent pas.
Enfin, elle dénonce une absence de coopération au ministère de la Défense, à l'état-major des armées et à l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Si ce n'était pas vrai, Romain, quel intérêt aurait la procureure du Burkina Faso à tenir de tels propos devant la presse ?
Non, mais c'est bien pour ça que je suis aussi surpris et étonné, parce qu'en même temps, on apprend dans la presse du jour d'aujourd'hui que les mêmes autorités ont décidé d'engager des poursuites contre Zabida pour désertion en temps de paix. Elle dit qu'elle a eu beaucoup de mal jusque-là à entendre Isaac Zida, et c'est ça son principal grief contre les autorités. Mais les mêmes autorités décident aujourd'hui de poursuivre le même Isaac Zida pour désertion en temps de paix. Oui. J'avoue que ça fait un peu désordre.
Isaac Zida, rappelons-le, ancien Premier ministre de la Transition. Avant d'être Premier ministre, il était le numéro 2 du régiment de sécurité présidentielle pendant ces fameuses manifestations. Donc il dirigeait les opérations de maintien de l'ordre à Ouagadougou. Et c'est vrai que la procureure a envie de l'entendre. Il a forcément quelque chose à nous dire, a-t-elle dit en conférence de presse. Il est forcément responsable. Vous dites qu'elle n'arrive pas à lui parler, mais personne n'arrive à lui parler au général Zida, puisqu'il vit exilé au Canada. Qu'on lui demande de revenir, puisque son nom est cité effectivement dans les manifestations anti-Compaoré, mais aussi dans un certain nombre, d'affaires de détournement, de malversations. Justement, concernant ce mandat d'arrêt international, Boubacar, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auteurs de RFI.
Vous êtes très satisfait, vous dites la justice dans mon pays fait son travail.
Oui, a priori, Juan, je n'ai rien contre la volonté de la justice d'entendre qui elle veut, de convoquer qui elle veut, de lancer un mandat d'arrêt au besoin. Je me réjouis d'ailleurs que du courage de la procureure d'affirmer qu'il y a des entraves à la liberté d'exercice de la justice. Je crois que c'est une attitude à dénoncer avec vigueur si cela est vraiment prouvé. Et au regard même de l'argumentaire de la procureure, cela laisse croire effectivement que l'ex-premier ministre, qui est un ancien grand responsable du régiment de sécurité, de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, peut être un sérieux suspect. Donc c'est normal qu'il puisse se présenter devant la justice, qu'il puisse répondre. Moi, en tout cas, je n'y vois aucun acharnement. Et puis un déserteur, il doit être poursuivi. Ça, c'est connu.
Ouais. Et je pense oui, puisque ce mandat d'arrêt a été délivré pour désertion en temps de paix et refus d'obtempérer. Je rappelle pour tous ceux qui découvrent cette affaire, c'est que effectivement, à la fin de la transition, il a demandé la possibilité, il est général à l'origine, hein, donc il a demandé la possibilité au chef de l'État de pouvoir rejoindre quelque temps sa famille qui vit au Canada. Le président de la République lui a donc accordé cette permission qui a pris fin au mois de février, et depuis le mois de février, eh bien, le général Zida est toujours attendu au Burkina Faso. On aura l'occasion, certainement, la semaine prochaine, de lancer un débat sur ce dossier. Je vois bien que ça réagit sur la page Facebook de l'émission et au Standard concernant donc ces différentes affaires judiciaires au Burkina Faso. En tout cas, vous êtes confiant, Boubacar. La justice fait son travail. Vous pensez que les États-Unis expulseront Yacouba Isaac Zida?
Bon, moi, il appartient aux États-Unis, il appartient à n'importe quel pays de décider de ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire. Je pense, je tiens à dire que la justice ne doit pas être sélective. Le lieutenant-colonel Zida, qui a été bombardé général, il a eu du mérite, mais n'est pas blanc comme neige. Mais pendant qu'on parle de mandat d'arrêt, que sont devenus les mandats d'arrêt là, c'est contre Blaise Compaoré qui est en Côte d'Ivoire, contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il y a plein de personnes qu'on doit pouvoir entendre. Ouais. Il faut que la justice fasse son travail, où qu'on soit.
On parlera de la justice burkinabé certainement la semaine prochaine. Merci à tous les deux et bonne journée au Burkina Faso. On termine avec le Gabon. Le Gabon où tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle. C'est la semaine prochaine que cette Cour doit trancher sur la réélection contestée d'Ali Bongo à la présidence de la République. Max, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Libreville et vous disiez au Standard être inquiet pour votre pays.
Oui, je suis inquiet parce que je crois que la violence effectivement du 31 août dernier c'est une première et je crains effectivement le pire si jamais la Cour venait ne lisait pas le droit. Voilà. Ouais.
Mais lire le droit, ça signifie quoi pour vous, excusez-moi Max?
Alors, lire le droit pour moi, c'est de pouvoir valider donc l'élection de M. Jambing. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être au 21e siècle et puis avoir ce taux de participation qui, malheureusement, nous met le Gabon dans des situations extrêmement compliquées.
Vous faites référence au taux de participation dans la province du Haut-Ogooué, un taux de participation qui frôle les 100%, et pour vous, vous trouvez ça bizarre? Il y a forcément anguille sous roche.
Ouais. Il y a forcément anguille sous roche. Et ça, franchement, je me dis, il faut absolument que la Cour recompte. Et elle recompte sur la base des procès-verbaux. Il y en a qui existent, donc, qui sont détenus par l'opposition et éventuellement la majorité, qu'on lise le droit.
Vous savez, excusez-moi, dire le droit ne veut pas dire forcément annuler la réélection d'Ali Bongo Ondimba et valider celle de Jinping. On verra évidemment. Après, vous êtes un militant partisan de l'opposition. J'imagine que si des auditeurs d'Ali Bongo s'exprimaient maintenant, ils diraient évidemment l'opposé. Et c'est vrai que évidemment, tout le monde est suspendu au verdict de la Cour constitutionnelle. On avait d'autres auditeurs qui souhaitaient s'exprimer sur le Gabon, mais là aussi, on attendra évidemment le résultat des élections pour lancer le débat, mais on relancera et on vous donnera la parole très prochainement sur le Gabon. Lundi, nous lancerons le débat sur la mobilisation. mauvaise qualité des carburants qui sont disponibles en Afrique. On vous en parle ce matin avec cette enquête réalisée par une ONG suisse qui révèle que sur la quarantaine d'échantillons qu'elle a prélevés dans 8 pays, eh bien aucun de ces échantillons ne pourrait être commercialisé en Europe car ces carburants ont des teneurs en soufre jusqu'à 1000 fois supérieures aux normes sanitaires européennes. Alors comment mettre fin à ce scandale ? On en parlera.